une encyclique écrite à quatre mains, deux papes qui deviendront bientôt saints. L'actualité du Vatican cette semaine est riche. Vendredi était présentée Lumen Fidei, lumière de la foi, la première encyclique du pape. Cette lettre du pontife destinée aux catholiques du monde entier a été écrite à quatre mains, de l'aveu même de François. Le document a en effet été initié par son prédécesseur Benoît XVI. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, est revenu sur le sens profond de cette encyclique. Il a évoqué un témoignage de communion.
Je trouve extraordinaire ce témoignage d'unité des deux pontifes, n'est-ce pas ? L'un qui fait cadeau de son ébauche et l'autre qui l'accepte humblement et en même temps qui la complète pour y mettre ses propres accents. Le résultat est une vision très unifiée et là nous voyons aussi comment dans les accents que l'on retrouve dans le style du pape François, eh bien, il y a une mise en œuvre de la pensée profonde de Benoît XVI. Parce que la préoccupation de Benoît XVI a toujours été de montrer la pertinence profonde de la foi.
Autre grande nouvelle au Vatican, le pape François a convoqué vendredi un consistoire en vue de la canonisation prochaine de deux de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II, deux papes, deux figures éminentes, deux charismes et un point commun, un sens pastoral aigu, comme nous l'a expliqué Bernard Lecomte, journaliste spécialiste de la papauté.
Tous les papes ne sont pas des pasteurs. Ces deux-là sont des pasteurs et seront canonisés, sans doute avant la fin de l'année, par le pape François, qui est aussi d'abord un pasteur. On constate que l'ancien archevêque de Buenos Aires va canoniser l'ancien patriarche de Venise et l'ancien archevêque de Cracovie, un peu comme pour montrer que l'Église, ce n'est pas d'abord le Vatican ou la papauté, où vivent des statues de marbre ou des demi-dieux. Non, c'est d'abord des hommes, c'est d'abord des communautés vivantes, dirigées par des hommes en chair et en os, proches des hommes.
Le pape, très actif ces jours, il se rend demain sur l'île de Lampedusa, sa première sortie hors de Rome. Ce déplacement apostolique, François le fait sur l'île sicilienne qui symbolise tant l'espoir de milliers de migrants africains qui débarquent sur ses côtes. Parmi les réactions, celle du cardinal Velio, le président du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement. Pour lui, depuis qu'il est pape, François n'a pas manqué une occasion de parler des problématiques de migration.
Je crois qu'il n'est pas nécessaire des paroles fortes. Déjà, la visite, c'est quelque chose de très significatif. Et la première fois qu'un pape va à Lampedusa, ça c'était déjà, l'acte c'est très fort. Ça, c'est pour montrer l'intérêt que l'Église a vers ces problèmes.
Dans l'actualité internationale, notre regard s'est tourné toute la semaine vers l'Égypte. Le président Mohamed Morsi a été renversé mercredi par l'armée. La journée de jeudi a été marquée par l'arrestation par les militaires des principaux dirigeants des frères musulmans dont est issu le président déchu. L'armée s'était accommodée jusqu'alors du pouvoir de la confrérie, mais elle a changé radicalement son fusil d'épaule. Elle a entamé un véritable bras de fer avec les frères. Nous avons demandé à Stéphane Lacroix, chercheur au Syrie, si ce n'était pas dangereux.
Ils sont en partie responsables de l'opposition qu'ils ont suscitée. Il y avait aussi évidemment des contraintes structurelles qui faisaient que la situation dans laquelle ils étaient quand ils sont arrivés au pouvoir était en elle-même extrêmement difficile. Certains vont vous dire aujourd'hui qu'ils méritent ce qui leur est arrivé, donc ils doivent être exclus du jeu politique. Cela dit, ce serait une erreur majeure. C'est-à-dire que là encore, si la démocratie égyptienne, elle se construit avec difficulté avec les frères musulmans, elle ne peut pas se construire sans eux. Les frères musulmans, c'est un mouvement qui rassemble quelques millions de personnes en Égypte comme membres du mouvement et des sympathisants en encore plus grand nombre. On ne peut pas les ostraciser. Ce serait vouloir ostraciser 25-30% du champ électoral égyptien que de vouloir ostraciser les frères. Dès lors, bah oui, ça va poser un vrai problème de démocratie si c'est l'option qui est aujourd'hui suivie par les militaires.
Pour Mgr William Kyrillos, l'évêque copte catholique d'Assyut, en Haute-Égypte, jamais le pays n'avait connu de mouvement de contestation de cette ampleur. Il est revenu sur le rôle que les leaders religieux peuvent jouer dans ce contexte.
Les leaders religieux ont le devoir et le rôle de calmer les gens, ce qu'ils font d'ailleurs toujours. On parle de l'entente, du dialogue, du respect mutuel, qu'il y a place pour tous, non pas pour un parti. Parce que les Égyptiens ont senti que le président était le président des frères musulmans et non pas le président de tous les Égyptiens. Tout son agir, toutes ses actions étaient dans cette ligne. Et alors les leaders religieux peuvent aider beaucoup pour la réconciliation, essayer de propager la paix, l'entente, le respect, l'amour.
Autre crise politique, celle du Portugal. Cette semaine, deux ministres ont présenté leur démission, celui des finances et celui des affaires étrangères. Mais ils n'ont pas voulu partir pour les mêmes raisons, comme nous l'a expliqué Yves Léonard, spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal à Sciences Po Paris.
Le ministre des Finances a reconnu lundi, en annonçant sa démission, une forme d'échec des mesures dont il était un peu l'incarnation, le porteur, celui qui d'ailleurs concentrait une bonne part de l'hostilité de l'opinion. Pour le ministre des Affaires étrangères, il y a une composante politique plus prononcée dans la mesure où il y avait des tensions, on va dire, entre le parti minoritaire de la coalition, le CDS, Parti Populaire, en l'occurrence Paulo Portas, et le parti majoritaire, le Parti Social-Démocrate. Donc c'est la traduction concrète des divergences qui s'accumulaient ces derniers temps.